tapis. Et en fait, comme ça, sur un petit couloir de 20 km, ça dépend où, évidemment, on a une série impressionnante de très grandes infrastructures de transport. Alors évidemment, c'est un corridor, hein, donc il y a un peu une raison évidente spatiale à s'implanter là, mais c'est quand même vraiment frappant d'avoir une si grande densité. On pourrait plus ou moins faire la même chose sur la Seine ou sur d'autres parties de la France, mais le Rhône était assez symbolique de ça. Mais alors, quand on va voir un peu ces chantiers, ce que je fais un peu par des archives, en effet, on se rend compte que ces chantiers consomment des quantités monstrueuses de flux de matière, donc représentent une extraction monstrueuse, notamment pour ce béton, donc de sable et de gravier. Il faut du ciment, donc il y a des cimenteries un peu partout. D'ailleurs, Lafarge est originairement de cette vallée du Rhône, elle vient d'Ardèche, l'entreprise Lafarge, devant Montélimar. On peut encore les voir aujourd'hui, les carrières de Lafarge. Et ça, alors je m'y attendais de voir que ça allait consommer beaucoup de matière, mais il y avait des protagonistes nouveaux qui sont apparus là en descendant ce Rhône, notamment les terres de terrassement. Pour en fait faire tous ces grands chantiers, il faut mobiliser, transporter des milliards de mètres cubes de terres de terrassement, dont on ne parle jamais, qui sont vraiment des protagonistes oubliés de l'histoire, de l'histoire économique, de l'histoire environnementale, de tout en fait. Hein. Et notamment, par exemple, pour ces grands chantiers, tous ces grands barrages, c'est 50 fois plus de terres de terrassement que de béton, par exemple. Mmh. Et bien tout simplement, il faut excaver tout le temps, il faut déplacer cette terre pour avoir la forme que le canal va prendre, par exemple, ou l'autoroute, ou la ligne de grande vitesse qui doit être toute plate, l'autoroute, la ligne de grande vitesse doit être très stable, etc. Donc il faut déplacer ces quantités-là. Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui avec le Grand Paris, où c'est aussi une énorme excavation de millions et de millions de mètres cubes.
On a fait une émission justement sur comment les départements périphériques de l'Île-de-France accueillent ces millions de tonnes de mètres cubes de remblai dont on ne sait pas quoi faire, en fait, qu'il va falloir répartir partout autour de Paris. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et ça, c'était une des énigmes que j'avais, c'était où va cette matière, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et là, pour les tunnels du Grand Paris, en effet, c'est soit ils vont acheter des espaces agricoles, soit ils vont remblayer des carrières, ils vont remplir des carrières. Donc ça, c'est un double gain pour le carrier, c'est de sortir le camion de la carrière. Le camion sort de la carrière rempli de sable et de gravier, et puis il rentre rempli de déblais pour en fait réaménager la carrière au fur et à mesure. Et sur le, donc en effet, il y a dans cette vallée du Rhône, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait penser ces infrastructures en termes de production d'espace. Plutôt que simplement de parler de béton et de simplement dire voilà, il y a des quantités de béton produites qui baissent, qui grandent, qui augmentent, etc. Ce qui aurait été assez pauvre de dire que le béton domine, oui, mais qu'est-ce que ça fait? Et en fait, moi j'ai vraiment pris ce parti donc le février de production de l'espace et de penser en fait en creux de ces infrastructures, toutes ces carrières, justement, ces milliers et des milliers de carrières qui sont très locales, qui sont à côté des chantiers, une dizaine de kilomètres en moyenne dans les années 60. Donc vraiment, il y en a absolument partout. Penser où sont les cimenteries, où sont les sites d'extraction, mais aussi, je le dis rapidement maintenant, ces grandes infrastructures, en fait, par exemple, sont en symbiose avec... sans symbiose entre elles, hein. On construit une infrastructure, mais pour construire l'autre à côté, etc. D'ailleurs, ça revient dans le reportage qu'on a entendu sur les jardins d'Aubervilliers, où il y aura la piscine et la gare et le pôle multimodal et le métro et je sais pas quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Donc, si on avait serré la focale sur un des aspects, on aurait oublié qu'en fait, tout ça vient ensemble. Et dans la vallée du Rhône, c'est assez frappant. Et là-dedans aussi, petit élément oublié de l'histoire, c'est que les grandes infrastructures, en fait, participent de façon explicite au remembrement agricole, par exemple, de nouveau. Donc, il y a des liens avec d'autres espaces produits. Et ça, encore une fois, à mon avis, on peut le comprendre qu'en pensant cette histoire comme des rapports sociaux qui produisent un certain type d'espace. Ouais. Et ces rapports sociaux sont les mêmes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut les penser ensemble. Pourquoi ça incite au remembrement? C'est parce que c'était une façon de compenser, en fait, les agriculteurs affectés par les tracés de ces grandes infrastructures. C'est obligatoire dans la loi. Et ça représente quand même 17% au total de tous les remembrements qu'il y a eu en France. C'est du fait des grandes infrastructures. Ouais. Et ça vient, en fait, un peu aussi... à l'encontre, enfin, ou en travers de certaines historiographies qui serrent trop la focale sur un certain type de bâti, ou sur un certain type d'espace, ou sur une route, ou sur le remembrement agricole, ou sur l'espace agricole, sans penser que peut-être que l'infrastructure à côté a des liens avec ça, etc. Et ça, Lefebvre, il le dit très bien. Il le dit, en fait, en critiquant lui, les géographes à l'époque, il dit ces géographes qui fragmentent l'espace et qui prennent une petite unité pour l'étudier exhaustivement à la limite, ils oublient l'unité, ils oublient penser l'unité de la production de l'espace. Et ça, vraiment, pour moi, c'était une façon de voir une approche, à mon avis, très, très pertinente pour mon cas.
Et là, dans la vallée du Rhône, ça permet de penser ensemble l'infrastructure l'extraction de matière et le flux de matière, et aussi ses dégâts, ses impacts. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'à extraire de la matière et à la déplacer dans tous les sens, en fait, eh ben, la vallée du Rhône n'en sort pas complètement indemne, quoi. C'est-à-dire que le lit de la vallée du Rhône est transformé notamment par ces excavations et ça va avoir des impacts, quoi.
Oui, énorme. Donc cette matière, elle vient bien de quelque part, et ce sable et ce gravier vient des rivières, justement. Alors là, c'est quand même assez étonnant. Enfin, je ne sais pas si les auditeurs étaient au courant de ça, mais donc tout le bâti en France, alors tout le bâti non, mais une grande majorité du bâti en France d'après-guerre, jusqu'au début des années 90, donc jusqu'à assez tard, vient des rivières d'abord. Donc le bâti vient du cœur de la rivière, alors, parce que les rivières charrient naturellement du sable et du gravier, du fait de l'érosion. C'est des processus géologiques parfois, c'est sur des millénaires et des millénaires que de l'érosion va se déposer dans toute une vallée, quand il y a des crues notamment, etc. etc. Et là, en quelques années, quelques décennies, ils vont vider les rivières complètement pour faire ces infrastructures juste à côté, hein, qui sont un peu en amont, un peu plus bas, un peu plus haut. Il y a vraiment des cas où on extrait à quelques kilomètres du chantier même. Et donc, les dégâts sont partout, en effet, notamment pour ces rivières, si on reste là-dessus, qui sont des carrières. Donc, ce qui aurait été inimaginable pratiquement au 19e, hein, au 19e, une carrière, ça, c'est de la roche dure qui sert au bâtiment. Là, on passe à du sable et du gravier donc alluvionnaire qui va servir aux grandes infrastructures principalement. Et ça, c'est quand même une transformation aussi complètement énorme du monde du chantier, de la carrière, etc. Et donc, dans les dégâts, bon, voilà, le lit change, le niveau de l'eau baisse, les nappes phréatiques sont affectées, des fondations, des ponts sont fragilisées, le courant, en fait, est beaucoup plus rapide en son cœur. Il y a un effet de chenalisation qui se crée. Il y a la mer qui peut remonter bien plus en amont du fleuve parce que le niveau a tellement baissé, etc. etc. Donc il y a énormément de... Enfin, le fleuve est complètement transformé. Et en plus de ça, il y a les barrages qui arrêtent les alluvions, il y a les digues, etc. Donc c'est vraiment une transformation de l'espace très importante en quelques décennies, quoi.
Et alors, toi, tu parles ici dans ça de dévastation alluvionnaire, et il y a un peu une sorte de naturalisation qui est donnée par Lafarge en 2004, qui dit la carrière, une étape dans la vie du sol, d'un sol. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où le sol, comme tu dis, par ses processus géologiques, accumule ceci, et la destinée normale, naturelle presque d'un sol, c'est qu'on en extrait ce dépôt. Et à la fin, presque comme la boucle est bouclée, à la fin, on la re-remplit, ça fait une base de loisirs. Il y a une sorte de processus circulaire comme ça, l'accumulation de gravier, l'extraction de gravier, ça se remplit d'eau et maintenant c'est torsi. Il y a un truc comme ça qui fait une sorte de naturalité sur le long de nos rivières qu'on ne questionne plus et qui est naturelle, qui est celle-ci. Une fusion totale de ces différents usages. Alors on peut même aller un peu plus loin, c'est que comme tu dis, ces extractions, en fait, elles déstabilisent très fortement ces bassins de rivière. Et le meilleur moyen de les restabiliser, c'est quand même d'y remettre du béton, quoi.
Ouais, alors là, il y a 5 questions dans une question. je vais essayer d'en prendre 2-3. D'abord, sur les dégâts alluvionnaires. Donc, en effet, c'est pour préciser que tout ça vient des rivières. La naturalisation de Lafarge, ça c'est vraiment très important, je vais m'arrêter un peu là-dessus. Donc Lafarge, en effet, c'est un document, mais il y en a plein que j'ai trouvé, où ils mettent une grande belle photo qui dit une carrière ce n'est qu'une étape dans la vie d'un seul. Et en fait, d'abord ils vont tout le temps naturaliser, mais au-delà de Lafarge, tous les carrières vont tout le temps naturaliser le besoin de sable et de gravier. C'est un besoin, il faut y répondre, et sans jamais en questionner vraiment l'usage, quelle pratique sociale ça sert, quelle classe sociale en profite, etc. qui sont quand même des questions plutôt intéressantes à se poser. Donc c'est un besoin comme ça, naturalisé. Alors si, parfois c'est bon parce que c'est l'économie, c'est moderne, c'est la civilisation, bon, des choses comme ça un peu débiles, hein, faut bien le dire. Et sur les carrières, quand même, il y a des énormes contestations dans ces années 60, 70, ça ne va pas de soi, hein, de vider, de saccager comme ça toutes les rivières de France. Et il va y avoir des dispositifs qui sont mis en place par l'État, imposés aux carriers. Les carriers s'en plaignent au début beaucoup. Ils ont une petite taxe à payer, notamment. Et ils ont l'obligation du réaménagement. Et ça, c'est un dispositif que j'ai vraiment beaucoup étudié, parce que j'ai vu à quel point il était important. C'est-à-dire que les carriers, en fait, il n'y avait pas de législation jusqu'au début des années 70. Donc les carriers abandonnent tout simplement la carrière en état après exploitation.
Qui se remplit d'eau le plus souvent à cause des nappes phréatiques. Et puis voilà, ça fait une mare.
Qui fait une mare comme ça. Et alors les gens jettent des détritus comme ça. Apparemment, ça devenait une espèce de terrain vague. Voilà. En effet, gorgé d'eau. Et donc là, l'État les oblige à réaménager. Alors au début, ils sont très fâchés, ils se plaignent, ils hurlent au scandale, etc. Mais en fait, assez vite, ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, en fait, parce qu'il y a tellement de contestations, il y a tellement de conflictualités autour de ces... Il y a des milliers et des milliers de carrières. Il faut comprendre qu'il y a plus de 12 000 carrières dans les années 70, donc il y a vraiment des milliers de carrières abandonnées comme ça tout le temps. Et donc, ils sont décrits comme des consommateurs d'espace, ces carrières. Et en fait, dès les années 80, en fait, ils investissent ça, alors en produisant une quantité monstrueuse de possibles réaménagements. Alors, du réaménagement agricole, du réaménagement forestier, du réaménagement en base de loisirs, du réaménagement, tout ce qu'on veut. Et ce qui va bien marcher, notamment, ce sont en effet les bases de loisirs, les bases nautiques en Île-de-France, il y en a plein, qui sont très appréciées d'ailleurs une fois qu'elles sont là. Bah, c'est un endroit agréable, on peut se promener, enfin, qui devient un lieu populaire, ludique, etc. De fait,
On oublie que c'était une ancienne carrière.
Exactement, on oublie complètement à quoi ça a servi, pourquoi on a extrait là, etc. C'est des endroits qui sont banalisés. D'ailleurs, ça me permet de dire que c'est un peu tout l'espoir, en tout cas, mon espoir dans cet ouvrage, c'est d'avoir essayé, en tout cas, de faire penser des espaces ordinaires qu'on traverse comme ça au quotidien, qu'on voit au quotidien. En fait, d'ailleurs, si les éditeurs regardent autour des infrastructures, que ce soit les lignes à grande vitesse ou autoroutes, etc., il y a des remblais partout, il y a des bases nautiques partout, il y a des carrières réaménagées partout, etc. Donc ce sont vraiment et même les routes, ce sont des espaces assez ordinaires qu'on rencontre banalement au quotidien. Et là, le but un peu, c'est de faire du social historique de ça et de les politiser. Et dernière chose, encore une fois, pour revenir sur ce truc de réaménagement, donc Lafarge, mais tous les autres qui ont des carrières vont complètement en fait dire que eux ils prennent en charge ces espaces. Encore une fois, c'est vraiment quelle force sociale, quel groupe social peut prendre en charge un certain type d'espace et qu'en faire, quoi. Et eux, ils peuvent alors dire, on va faire un peu de concertation, demander un peu aux habitants qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et ils ont une espèce d'hubris en disant, nous on peut tout faire, en fait, on fait ce que vous voulez comme paysage, comme vous voulez une colline, vous voulez plutôt quel type d'arbre, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant qui continue aujourd'hui dans toutes les idées de compensation, de refaire des paysages. C'est vrai aussi pour les autoroutes, pour cacher l'autoroute. Et tout ça, c'est des paysages complètement artificiels qui sont en fait produits par ces forces sociales. Dans l'espoir, alors ce qui est étonnant, c'est que l'affect visuel est vraiment prédominant, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on arrive à cacher, à réaménager, à faire en sorte que ce soit plutôt joli et apaisant, ça permet en effet de baisser la conflictualité. Mais encore une fois, c'est un dispositif qui permet de légitimer un maintien d'une extraction assez énorme encore aujourd'hui.
Ouais. Alors l'autre élément, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui finit par devenir un peu circulaire dans ces aménagements, c'est que les aménagements produisent des dégâts. Pour réparer ces dégâts, le plus simple, c'est encore d'y recouler du béton. Et en fait, il y a un moment où on finit, quand on lit tout le bouquin, on se rend compte que globalement, on fait des routes pour faire rouler les camions qui ont extrait le sable pour construire un aménagement plus loin. Et qu'en fait, il y a quelque chose comme ça, que les infrastructures se supportent les unes les autres et qu'à un moment, on finit par y avoir presque un flux circulaire de matière d'infrastructures routières en infrastructures portuaires via des camions avec l'extraction en bout de chaîne, quoi. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui est un peu hallucinant, quoi.
Ouais, il y a des...
Et sur la vallée du Rhône, c'est encore plus visible, peut-être, quoi.
Ouais, il y a des symbioses partout, ça circule dans tous les sens, avec des déchets aussi en quantité monstrueuse qui rentrent dans ces infrastructures. Alors plus on produit, plus il y a de produits industriels, certaines époques, notamment de la sidérurgie, mais en même temps, plus on construit de routes, et plus il y aura de la valorisation, par exemple. On va mettre des centaines de millions de tonnes de déchets dans ces routes. La route est vraiment le réceptacle parfait pour accueillir des milliers et des millions de tonnes de tous ces déchets. Dans ses sous-couches, dans ses remblais, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment assez fascinant. Donc c'est vraiment des gros tas de matières qu'on va déplacer d'un bout à l'autre comme ça. Et en effet, le camion, par exemple, est un protagoniste très important dans cette histoire. Donc en fait, le transport de marchandises en général, mais le camion pour ce qui est de la route. Et le camion en fait éclate complètement les routes du fait de son poids et pour des raisons techniques que je pourrais évoquer. Et aujourd'hui, en France, un sixième du poids, un camion sur six, pour le dire autrement, transporte du sable et du gravier, justement. Ouais. Puisque c'est la principale matière de l'économie française, eh bien, c'est le principal flux de transport la plus principale marchandise transportée. Et donc, alors évidemment, ce n'est pas les camions qui font Allemagne, Espagne ou je ne sais pas quoi. C'est des petits trajets. Mais
ils font 50 km maximum.
Ils font quelques dizaines de kilomètres, tout au plus. Mais quand même, un camion sur six en France transporte du sable et du gravier.
Et sur le réseau secondaire, en plus, quoi.
Voilà. Et donc, ces réseaux empruntés par les camions doivent être sans cesse réparés par du sable et du granulat, enfin du sable et du gravier. Donc, il faut extraire pour réparer des infrastructures abîmées par des camions chargés de sable et de gravier. Ouais.
Toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM, c'est Zoom Écologie et on vient d'écouter Ice Spice avec Gimme a Light. Bien donc, Anselm Yap, bonjour, tu es philosophe et tu es auteur de Béton, arme de construction massive du capitalisme aux éditions de L'Échappée, que tu as écrit suite à l'effondrement assez traumatique pour l'Italie du viaduc Morandi à Gênes en 2018. Et dans ce livre, tu essayes, si j'ai bien compris, de produire une sorte d'histoire politique, sinon idéologique, du béton. Et donc voilà, tu dresses au fur et à mesure, donc dans un chapitre central, le lien qu'il y a entre le béton et les différentes grandes idéologies qui ont parcouru le XXe siècle. Et tu dis que, d'une certaine manière, le béton pourrait être comme le support matériel à une histoire politique du XXe siècle. Et donc pour commencer, tu nous dis que donc le béton est donc dans l'imaginaire, il est associé à des grands courants architecturaux du XXe siècle, et on pense immédiatement hein, évidemment à Le Corbusier, aux grands ensembles. Mais toi, tu dis que c'est aussi associé plus généralement à l'idée générale de modernité.
Bon, le béton armé, donc celle qui est nécessaire pour faire vraiment les très grandes constructions comme le barrage ou le gratte-ciel, donc a été mis au point dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais au début, il ne s'est pas diffusé très rapidement. Et en plus, il était associé aussi à une certaine manière à un matériau pas noble, donc pauvre. Et donc, surtout, par exemple, la bourgeoisie, il faisait beaucoup de résistance, de même que pour les bâtiments représentatifs. Donc, c'est essentiellement à partir des années 20, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, que le béton a vraiment commencé à conquérir le monde, et c'est surtout lié donc aussi au nom de Le Corbusier. Alors, au XXe siècle, donc, le béton donc, est devenu, on peut dire, un des trois matériaux phares de la modernité, comme le pétrole et comme le plastique. Et d'ailleurs, comme ces autres deux matériaux, le béton aussi a été salué au début comme une espèce de miracle qui pouvait résoudre tous les problèmes. Et peu à peu, on a commencé à voir aussi le côté négatif. Mais il faut quand même dire que le béton a réussi à garder bien plus longtemps que le pétrole et le plastique encore une certaine aura de positivité. C'est peut-être seulement dans les dernières décennies que cela a changé. Et normalement, le béton suscite beaucoup d'associations négatives. Pendant longtemps, donc, il y avait une espèce d'enthousiasme presque universel, que par exemple les démocraties occidentales, comme le fascisme, plus tard aussi le stalinisme, mais aussi des avant-gardes artistiques comme le futurisme. Et donc tout le monde était enthousiaste d'une matériau de construction qui était tellement peu cher, tellement facile à utiliser, et qui semblait résumer en soi-même de certaines manières toutes les promesses de la modernité, parmi une industrialisation rapide des pays, par exemple avec le grand barrage, mais aussi de construction de logements, donc de bons marchés, même pour les classes populaires.
Donc le béton, un peu dans l'imaginaire et l'esthétique, renvoie quand même très souvent, d'une certaine manière, aux grandes idéologies du XXe siècle. On peut penser donc aux grands bâtiments fascistes ou staliniens, tout de béton massif, hein, et qui font un peu l'esthétique de quelque chose comme Blade Runner, mais aussi du capitalisme, avec ses forêts de gratte-ciel, qui là renverraient plutôt peut-être à Metropolis. Peut-être la question, c'est un peu quelle est la fonction centrale du béton dans la réalisation de ces idéologies, notamment dans leur réalisation spatiale.
Donc, comme je disais, le béton, par exemple, ce n'est pas toxique et ce n'est pas l'amiante, et donc ce n'est pas son usage, peut-être pour des usages spécifiques en petite quantité, qui pose problème. Le problème du béton, ce sont les quantités astronomiques dans lesquelles on l'utilise dans le monde entier, partout. Donc, c'est-à-dire du slam dans les pays du sud du monde jusqu'au gratte-ciel haut un kilomètre. Donc, c'est quelque chose, de certaine manière, qu'on retrouve un peu dans le plus différents milieux géographiques et sociaux. Et donc ce béton-là, d'une certaine manière, est donc aussi donc devenu un peu la quintessence donc de la société capitaliste, parce que justement il est absolument uniforme, homogène dans le monde, et donc il a permis donc de tuer toutes les autres formes d'architecture, les architectures traditionnelles, populaires, vernaculaires, donc au profit donc d'un style assez universel qui a trouvé donc après donc vraiment son point de dogme dans le tristement connu brutalisme, mais même là où on l'utilise pas directement, le brutalisme, il y a quand même toujours les mêmes figures, donc les mêmes formes géométriques qui prédominent, mais qui sont souvent justement acceptées parce qu'ils semblent rimer avec hygiène, avec modernité, avec surtout une grande facilité dans le construction, et même dans les autres constructions. Donc j'ai dit, le problème, ce n'est pas le béton en petite quantité, mais le béton peut être même comparé à une espèce de plante invasive, un animal invasif qui est simplement, avec sa simple présence, finit par éliminer toute alternative possible, parce que par rapport au béton, tout le reste est en même temps trop cher et trop compliqué à utiliser. Il demande par exemple des artisans avec un véritable savoir-faire, tandis que le béton et aussi s'adapte très bien à la division du travail dans la société capitaliste, d'un côté des bureaux d'études qui peuvent, ou des ingénieurs ou des architectes peuvent évidemment développer des bâtiments où ils ne mettent jamais le pied. Donc c'est tout le contraire d'une architecture locale adaptée aux différents contextes et à leurs conditions thermiques, faites par des personnes qui connaissent effectivement les techniques de construction, comme ça a toujours été le cas avant la construction du béton.
Et donc pour finir dans le livre, tu parles, donc tu fais une sorte de développement à partir de la double signification du mot béton, qui est appelé en fait en anglais concrete, et qui a vraiment la même racine latine de solidité que pour nous concret. Et Et tu dis que le béton est d'une certaine manière le matériau qui permet aux abstractions du capitalisme, et notamment de l'abstraction marchande, de devenir concrètes, de se matérialiser. Ce serait un peu le support matériel de l'abstraction. Il y a quelque chose de, comme ça d'un peu paradoxal, mais est-ce que tu peux développer un peu cette idée comme ça que l'abstraction n'est pas qu'une affaire d'idée, elle doit se réaliser matériellement et le béton permet ceci?
Oui, dans les derniers chapitres, j'ai fait un raisonnement qui est comme évidemment un peu dans l'ordre métaphorique, c'est un peu ironique, donc je me réfère au fait que le capitalisme est donc essentiellement une société basée, comme Marx l'a démontré, sur la marchandise, la valeur, l'argent et la double nature du travail, qui est en même temps concret et abstrait. Ça veut dire donc, pour le dire très brièvement, que dans ce régime capitaliste, tous les différents travaux sont, malgré leurs différences sur le plan évidemment des procédures, des qualités, des résultats, ont quand même une chose en commun, que c'est toujours une dépense de temps ou d'énergie humaine mesurée par le temps. Et finalement, la valeur marchande des produits, en vérité, ne dépend de cette quantité de temps qui était nécessaire. Ici, Marx introduit donc le concept de travail abstrait, qui n'a rien à voir avec le travail immatériel, mais ça veut dire tout travail dans le capitalisme a aussi un côté abstrait. Donc la valeur, justement, la valeur marchande n'a pas de contenu propre, mais est simplement la représentation du travail qui a été dépensé et qui finalement trouve sa face visible dans l'argent. Et alors, donc, si c'est donc l'abstraction qui gouverne la société capitaliste, on peut quand même dire qu'il y a des matériaux dans lesquels cette abstraction redevient concrète. Et on peut le dire, là, comme j'ai dit, c'est reste comme évidemment une métaphore, que le béton, effectivement, qui en anglais, justement, ça s'appelle concrete, représente exactement cette espèce de... C'est une espèce de parallélisme. Donc le béton est quelque chose qui n'a pas de qualité vraiment précise. Ce n'est pas comme exemple, les pierres. Chaque pierre, par exemple, est différente de l'autre pierre. Tandis que le béton est toujours le même. Donc c'est quelque chose d'uniforme. Donc quelque chose en plus qui n'a pas de forme propre, mais qui s'adapte à tout ce qu'on veut en faire. Et donc là, donc, le béton montre, je dis, montre donc une espèce, donc, si on veut, des similitudes justement avec la catégorie du travail abstrait. D'ailleurs, on pourrait même dire la même chose pour le pétrole et aussi pour le plastique. Ce sont également des matériaux qui pratiquement peuvent s'adapter aux formes les plus différentes. Donc la nature et donc la multiplicité de la nature ne fait pas obstacle donc au désir humain de la plier à tout usage possible. Et donc le béton est de certaine manière donc aussi parfait pour une mentalité capitaliste, même sur le plan psychologique, parce que le béton, il ne faut pas rendre négocier avec le béton comme il faut négocier par exemple avec la pierre ou avec le bois ou d'autres matériaux traditionnels qui ont toujours leur propre structure et démontrent toujours que l'être humain dans ses projets s'adapte aussi à la structure, à la nature de ses produits. Donc le béton est pratiquement quelque chose de totalement disponible avec lequel on peut faire pratiquement n'importe quoi. Donc le béton a donc, même si on veut une forme de partie liée avec le narcissisme et avec le fantasme de toute puissance qui également caractérise le capitalisme.
Donc si on comprend bien, ce que tu nous dis, c'est que le béton n'est finalement pas qu'une question technique, mais en fait une question presque, on peut dire, politique ou idéologique, au sens où elle est porteur, le support, d'une certaine manière, de produire l'espace dans des sociétés données.
Non, le béton, comme je l'ai dit, apparemment c'est une question seulement technique, il a pu vraiment conquérir le monde et être aujourd'hui le matériau le plus utilisé sur Terre après l'eau. C'est justement à cause de cette espèce de syntonie qu'il a, donc cette espèce de profonde unité qu'il a avec la logique de la valeur marchande, mais aussi avec la structure psychologique du capitalisme.
Alors, retour en studio sur cette idée un peu comme ça de le béton comme support de matérialisation de l'abstraction. T'en parles beaucoup dans ton livre, hein, tu dis s'affranchir du sol, quelque chose comme ça, le béton qui permet d'unifier toute chose et de réaliser toute infrastructure n'importe quand, n'importe comment. Et donc, une façon de produire de l'abstraction, on pourrait dire.
Ouais, alors.
Peut-être pas comme ça, mais.
J'ai lu le bouquin d'Anselm Japp et je peux dire tous les points où je suis d'accord avec lui, notamment toute la disparition de savoir, de savoir-faire qu'il mentionne, de pratiques de construction, donc rattachées à des pierres qui sont toutes différentes les unes des autres, comme il le dit, etc. etc. Évidemment, sur le côté que c'est devenu une marchandise, uniforme, standard, etc. Et par contre, je suis beaucoup plus sceptique, alors je vais le dire rapidement, parce que ce n'est pas non plus l'enjeu là, sur, je trouve qu'il a un biais idéaliste ou intellectualiste énorme avec Le Corbusier ou les brutalistes, etc. etc. Clairement, les gens au Brésil, en Chine, en Inde, n'ont pas lu Le Corbusier, n'ont aucune idée du brutalisme, et pourtant, ils construisent en béton. Enfin, c'est un biais idéaliste, parce que c'est de croire que les idées font le monde, et les idées, c'est aussi occidentalo-centré, ou même genre euro-centré, de croire que les idées européennes font le monde, etc. Donc à mon avis, là, il y a un gros souci dans sa démonstration, mais bon, peu importe. On ne peut pas non plus nier, par ailleurs, qu'il y a des imaginaires modernes associés au béton, etc., bien sûr. Hein, mais penser que c'est des courants architectes ou des courants en architecture qui ont fait le monde grâce à leurs idées dans des bureaux parisiens, bon, ça, à mon avis, c'est un peu un petit mensonge. Et par ailleurs, sur le support matériel du capitalisme et du détachement du concret, ça il y a alors selon moi c'est vrai, mais pas pour les mêmes raisons que lui. Alors lui, donc bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il se réfère au courant qu'il développe beaucoup, c'est la critique de la valeur, avec, comme il l'a dit, la séparation de travail en concret abstrait et de la valeur aussi en concret abstrait. Bon, je vais un peu vite, mais c'est vraiment donc pour lui, il va venir plaquer tout son édifice théorique sur le béton en disant ah ben voilà, lui c'est exactement le protagoniste, enfin l'élément qui résume ça. Mais en fait, c'est vrai de toutes les marchandises, je veux dire les marchandises industriellement produites, le coca, le plastique.
Celle-ci a pour objet de vraiment pouvoir s'abstraire du milieu. Il y a quelque chose comme ça pour le coup. Alors peut-être on pourrait presque prendre de façon plus matérielle, mais à un moment tu le dis, hein, dans le fait d'unifier les sols, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a des sols qui sont bons, qui ne sont pas bons, et le béton va faire de tout sol un sol bon. Quoi.
Oui.
Et on va pouvoir construire les mêmes infrastructures à différents endroits avec les mêmes procédures.
Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que lui. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a une valeur abstraite.
Oui, non, ça d'accord. Mais...
Ça, j'y crois pas un instant. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord à la limite avec lui, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est que pour industrialiser les travaux publics, pour de fait faire passer une autoroute sur tous les types de sols, de faire passer une infrastructure n'importe où, en fait, il faut s'abstraire du sol. Il faut en fait se rendre indépendant du sol, c'est-à-dire qu'on puisse circuler en tout temps, en toute saison, avec des avions n'importe où, avec des voitures n'importe où, etc., etc. Et de fait, se libérer des contingences du climat, du gel, du dégel, de sols tourbeux, marécageux et tout ce qu'on veut. Et donc, en effet, à la fin, il faut s'abstraire des sols. Il faut s'abstraire des sols concrets. Et le ciment aussi fait ça. Le ciment, alors lui, il n'explique pas du tout par les mêmes arguments que moi. Lui, il vient, encore une fois, avec un édifice théorique depuis le haut. Et alors que moi, je pars de cette histoire des sciences et techniques que j'ai développée au début. C'est-à-dire que le ciment peut être produit à partir de n'importe quoi et de fait libéré de la géologie, puisqu'on peut produire du ciment à peu près partout de la même façon. Donc, à la fin, on arrive à peu près au même résultat, mais avec des chemins assez différents.
Sur le point commun un peu, pour conclure sur ce que vous dites, c'est que tous les deux, ça m'a un peu ça marqué, c'est que vous ouvrez tous les deux sur un effondrement. Donc il y en a, Anselm Japp ouvre son bouquin sur l'effondrement du pont à Gênes, qui a été assez traumatisant dans cette région-là. Et toi, tu ouvres sur une fiction qui est celle de la bétonite, qui est un agent pathogène qui détruit le béton. Et les deux nous offrent un peu une figure de l'effondrement de nos sociétés à travers l'effondrement du béton. Et en fait, qui est propre à une, tu l'expliques, hein, une contradiction du béton, c'est qu'en fait, le béton armé, par sa structure armée qui rouille, et en fait, et ça, on ne le savait pas au départ, est quelque chose de très éphémère et qui tente en fait à s'effondrer, qu'il va toujours falloir reproduire, enfin réparer d'une certaine manière. Et qu'en fait, il y a un truc de l'effondrement permanent, quoi, qui est un peu avec le béton, quoi, qui est toujours en suspens, quoi.
Ouais, le béton, il a une durée de vie assez limitée par rapport à la pierre, notamment, la pierre de taille de toutes les vieilles villes d'Europe qui tiennent des millénaires. Le béton a une durée de vie de 80 ans, disons. Il paraît qu'il y a des mauvais bétons en Chine aujourd'hui qui ont une durée de vie de 30 ans. Donc, en fait, on construit dans 30 ans, ce sera par terre, environ. Hein. Donc ça c'est évidemment un paramètre important et d'ailleurs qui est paradoxal, qui contraste avec l'idée que le béton est très solide, ce qui est vrai, hein, le béton est quelque chose de très solide qu'on peut garantir et qui permet ces architectures et tout ça. Mais paradoxalement il est très solide mais il a une durée de vie très limitée. Donc c'est bon. Et oui, alors ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, d'analyser, c'est le fait qu'une fois qu'on a construit de nouvelles infrastructures, élargi, approfondi, eh bien, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il faut réparer en fait toutes les infrastructures. Il faut réparer le bâti constamment. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France, principalement. En fait, la principale extraction aujourd'hui en France sert d'abord les travaux publics, bien plus que le bâtiment, et d'abord pour la réparation. Et donc, ça, c'est quand même un fait qui est peu connu, je crois, et qui est peu connu, à mon avis, parce que c'est une activité qui est dépolitisé, c'est-à-dire que ça va de soi qu'il faut réparer des objets abîmés. C'est un peu une évidence. La route est abîmée, il faut la réparer. C'est un peu il faut que...
Alors que là, en l'occurrence, les flux tendent à s'inverser en France, tu dis quoi. C'est-à-dire que la maintenance du béton, c'est des flux qui sont devenus eux-mêmes vraiment colossaux, en fait, quoi. Ouais. Et qu'on pourrait presque dire, et pour conclure sur ça, que pour maintenir ces infrastructures, eh bien, il n'y a pour l'instant que la société actuelle, à savoir capitaliste, qui se propose de le faire et qui a les moyens de le faire, d'extraire ces quantités de matières énormes, de produire industriellement le béton et de faire circuler les matières de manière à réparer l'ensemble des infrastructures. Et qu'en fait, si la société s'effondrait d'une certaine manière, on serait même plus à même de réparer le béton tellement sa maintenance demande de travail, de matière et d'organisation, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça demande une organisation industrielle, en effet. Donc, ouais, quelques grands groupes qui font ça, Bouygues et Vinci pour les nommer, mais d'autres. Hein. Mais il y a quand même, pour terminer sur quelque chose, parce que sur un point qui soit moins fataliste et qui donne moins l'impression d'un golem qui nous mange tout cru comme ça, qui serait le béton qui s'impose à la société, etc. Moi, ce sur quoi j'insiste, en effet, si tout devait s'effondrer tout de suite, eh bien, il faudrait de nouveau une organisation industrielle pour gérer ces flux de déchets qui seraient gigantesques.
Parce que les ponts s'effondreraient dans les 20 ans, en fait, d'une certaine manière.
C'est ça, si on ne les réparait pas, si on laissait tout comme ça. Voilà. Et donc, mais y a d'autres façons de penser la chose. Et c'est pour ça que là, je ne suis pas d'accord avec Jap sur le fait que ce soit une marchandise purement capitaliste, etc. Et c'est que La question du béton, elle est rattachée à des forces sociales qui produisent les espaces. Donc, elle est rattachée, comme je l'ai dit dès le début, à les grandes infrastructures, etc. Mais dès lors que ces grandes infrastructures ne sont plus gérées, ne sont plus prises en charge par ces forces sociales, eh bien, leur pouvoir s'évanouit. Si un aéroport est abandonné, s'il est réapproprié comme celui de Berlin par des gens, si l'autoroute est bloquée et qu'on peut aller faire de la musique et faire du vélo dessus, eh bien, elle n'a plus aucun pouvoir. Et donc, il ne faut pas forcément la démolir immédiatement et qu'il ne faut pas que tout s'effondre immédiatement. En fait, c'est la réappropriation de ces espaces par d'autres forces sociales, pour d'autres pratiques sociales, en fait, permettrait de les démanteler sans les démanteler matériellement complètement. Mais en fait, il y aura une nouvelle production de ces espaces-là. Et donc, le béton, il serait toujours là. C'est pour ça que je fétichise pas le béton comme lui, au sens de représentant absolu du capitalisme. À mon avis, le capitalisme. Alors, deux choses. D'abord, le capitalisme pourrait exister sans le béton, en imaginant qu'il y aurait une autre matière qui un jour serait produite. Il y a eu du capitalisme sans béton, d'ailleurs. Hein, début 19e, il n'y a pas de béton, et le capitalisme existe. Donc, il pourrait y avoir du capitalisme sans béton, et il pourrait y avoir un avenir post-capitaliste avec du béton. Donc, les deux sont possibles.
Très bien. On réfléchira à ces imaginaires. On vous souhaite une bonne soirée, et on vous laisse avec Musique Antille. Bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.
On rappelle les références de l'émission avec donc Neo Magalhaes, Tracé des routes accumulées de béton, aussi sur la fabrique, et Anselm Jap, Béton, arme de construction massive du capitalisme, c'est à l'échapper.
MGA, ah. RADIO, oh. Méga Radio.
should work to get you. In reality, I won't. The summer with my arms around you seems hopelessly remote. It won't be long, and our love will strong. It won't be long, it won't be long. Nothing goes wrong. I would tell you love's a clown, but eternity is such a long time. Solitudes, I want to track you. But we don't have long, and now this greenhouse on. No, we don't have long, we don't have long.
Fuir un caractère en plus. plus. Bitch, vais pas te la faire en douce. Ça sera dit dans tes yeux, les marrons comme les bleus. Bitch, t'as versé dans le kitsch. Bitch, French comme quand ma beuh. De loin t'entends mon vœu. Arrête-nous si tu peux. Bitch, Zarma, tu te la donnes. Tu fais trop la madame. J'ai connu les rageux, je connais les envieux. On danse avec les deux, bitch. J'ai tes yeux pour et pleut, bitch. Arrête-nous si tu le peux, bitch. Au début c'est du bol, après c'est plus du vol. Regarde-moi quand je m'envole, bitch. Putain d'allergie, bitch. Putain j'ai l'air libre. Un exploit dans le vide, bitch. Je te regarde rater ta vie. C'est pas la mer à boire, juste un shot de whisky, bitch. Ta chance est méchante, bitch. Hier t'étais bien, demain t'es plus rien, bitch. Je trouve pas ça marrant. Hey. La roulette russe avant, chat perché c'était bien, bitch. Tu charges des balles à blanc. Bitch.
Repérer les lieux en amont sur les cartes.
Malin ça.
besoin. Adressez-vous à la veille et à la base soin.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. C'est Louis du Zoom Écologie pour l'émission L'Arpentaire. Il est 20h30 et ce soir, on vous a concocté avec Lisa une petite création sonore soignée aux oignons. Vous m'en direz des nouvelles évidemment, à partir de plusieurs enregistrements des rencontres bio-régionales, du 20 et 21 janvier dernier, qui avaient lieu à l'Académie du Climat. Donc l'objectif de ces deux journées de janvier, c'était de préciser donc un horizon bio-régional en mêlant les approches revisitant l'histoire et en recensant les tentatives en cours en Europe à partir de témoignages et de partage d'expériences. Donc on écoute ça tout de suite après le générique avec L'Arpentaire.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Ça fait des années que je n'avais pas vu autant de monde réunis pour discuter, débattre. Et donc ça me rappelle quand j'étais petit et qu'on appelait les personnes qui venaient des camarades. C'est un peu un vieux mot. Hein. Mais bon, je dois vous parler très rapidement de la préhistoire de la notion de biorégion. Donc je commencerai par 1516. Rassurez-vous, je vais aller au pas de course. Je commencerai en 1516 quand Thomas More publie l'Utopie. Déjà dans ce titre qu'il invente, il joue sur les mots en disant est-ce que c'est utopie ou utopie, c'est-à-dire est-ce que c'est le lieu du bonheur, le bon lieu, ou est-ce que c'est le lieu qui se trouve nulle part. Puisque, comme vous le savez, c'est un navigateur, Raphaël Claudel, qui découvre par hasard l'île d'Utopie où il n'y a pas de monnaie, où il n'y a pas de propriété privée, où il n'y a pas de guerre et de guerriers. Nous sommes en 1516, donc en fait, il s'oppose à ce qui est dominant dans sa propre culture, à lui qui est anglais. D'autant plus que c'est le moment où le mouvement des enclosures commence à se manifester en Angleterre, c'est-à-dire la confiscation des terres par les seigneurs, par la petite noblesse, la gentry. Et donc, ces paysans sont lâchés sur les routes et deviennent des vagabonds et vont aller peupler les workhouses, comme vous savez. Donc, la première fois dans l'histoire des idées que quelqu'un invente une autre société en la territorialisant. C'est-à-dire que c'est ça qui est important, c'est pas simplement un schéma d'une autre société, c'est que cette société-là est inscrite dans un territoire. Donc c'est localisé. Hop, je saute encore quelques années, on est toujours au 19e siècle, et là, on est en France. Il y a un penseur qu'on a un peu oublié qui s'appelle Proudhon, qui va militer pour la décentralisation et la déconcentration des pouvoirs. Il est anti-étatiste d'une part, mais il est surtout opposé à l'accumulation de toutes les prérogatives sociales, culturelles, économiques, etc., de Paris. Et Proudhon va inspirer le mouvement régionaliste français. Le mot lui-même apparaît en 1893. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de rentrer dans tous ces détails. Et il y a en même temps, dans le mouvement ouvrier français, une tentative de réfléchir à l'inscription aussi de nouveaux territoires. Je donne trois exemples. Les bourses du travail, et Fernand Pelloutier, c'est local. C'est pas comme ça en général. Bon, chaque ville peut avoir une maison des syndicats, on va l'appeler comme ça, si vous voulez, une maison du peuple. Bon. Premièrement, les universités populaires, qui naissent au même moment avec les musées du soir. Tout ça, c'est pareil. C'est un endroit précis, ce n'est pas comme ça en général. Et puis, le troisième élément, les coopératives de production. Donc, vous avez là trois auteurs majeurs. Paul Brousse, qui est le premier théoricien du municipalisme, qui invente le terme, du reste, c'est lui qui a créé le mouvement des possibilistes. Non, mais, bon, faut que j'aille. Bon. Ensuite, vous avez César de Pape, qui est un révolutionnaire belge, qui va faire toute une réflexion sur les services publics. L'eau, vous voyez, donc l'eau, l'énergie, l'alimentation, les pharmacies, tout ça devrait être communalisé. donc inscrit dans un territoire qui est le territoire communal. Et puis, vous avez Benoît Malon. Benoît Malon est un socialiste, un parisien absolument remarquable, qui est spéciste, qui est végétarien, qui est écoféministe. Vous savez, tous ces mots n'existaient pas encore, mais il faut pas qu'on oublie cette histoire aussi riche. Bon. Et puis, j'en arrive à peut-être l'auteur le plus important lié à la région. Il s'appelle Patrick Geddes, qui est un Écossais, biologiste de formation, vous voyez, biologiste, on voit l'écho avec la biorégion, bien sûr, botaniste, pédagogue, sexologue, urbaniste, etc., etc., un auteur absolument majeur, passionnant, qui avait comme ami Élisée Reclus, et Élisée Reclus lui souffle à l'oreille l'idée de s'intéresser à la région. Et Patrick Guedes, à ce moment-là, va théoriser cette notion de région, va écrire de nombreux textes sur qu'est-ce que c'est que l'étude régionale, et donc il va même faire une coupe géographique de ce qu'on appelle la section d'une vallée, c'est-à-dire qu'il explique comment on part de la source jusqu'à l'estuaire, et que là on va pouvoir inscrire dans la géographie et dans l'écologie de cette géographie, on va pouvoir inscrire les activités humaines. Vont considérer que les États américains de la Fédération américaine ne correspondent pas à la réalité vécue des gens. Et donc il faut rompre avec ce découpage administratif et essayer de valoriser de nouvelles régions. On va repenser autrement l'organisation de la nation. Une nation qui est découpée en régions. Alors certains théoriciens proposent 8-12 régions, d'autres 125, vous voyez, on a tout un éventail très intéressant. Et il va se bagarrer tout au long du XXe siècle pour défendre l'idée régionale, sauf qu'il y a la période qui est très intéressante à étudier aussi, qui est la période de Vichy, où là, Jean-Charles Brun va être adoubé par le maréchal Pétain, donc ça va fout mal, si je puis dire, pour essayer de réfléchir à un nouveau découpage régional de la France. Mais comme il est anti-nazi et qu'il s'oppose ouvertement contre l'antisémitisme ambiant, il ne sera pas du tout épuré. On va inventer ce terme. Il ne sera pas épuré de la libération. Le biorégionalisme, au moment même où la globalisation du capitalisme va finalement se débarrasser de la notion de territoire, il y a un appauvrissement de la notion de territoire. Dans le capitalisme, on délocalise les entreprises, on investit là, puis ailleurs, etc. Il y a une sorte de précarisation du territoire. Et puis, avec les migrations climatiques, économiques, de guerre, etc., nous entrons dans une nouvelle période où les déménagers, c'est une nouvelle catégorie d'individus, les déménagers vont être de plus en plus nombreux. Et ces déménagers seront aussi en quête d'un chez-soi, et ce chez-soi peut être à l'origine. Et dans la notion de chez-soi.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Parler du régime, il faut mieux parler à l'estomac des gens qu'à leur tête. C'est une hypothèse. C'est bien ça pour capter un peu l'attention. Cet après-midi, on va essayer. C'est coupé, ah non, c'est bon. On va essayer de s'intéresser à un croisement qui est celui donc, des liens entre la permaculture et le biorégionalisme. Car vous le savez tous et toutes probablement, nous avons plus de neurones dans l'estomac que dans le cerveau. Donc peut-être que si on veut vraiment parler de biorégion, il faut mieux parler à l'estomac des gens qu'à leur tête. C'est une hypothèse. Alors la permaculture, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Et si ce n'est pas le cas, ben, en gros, c'est des manières de faire de l'agriculture qui ne sont pas destructrices des milieux de vie, qui cherchent plutôt à enrichir la diversité existante, tout au moins à la préserver, et qui évite au maximum peut-être même qui évite complètement, d'utiliser des intrants extérieurs, principalement chimiques, pour créer de la subsistance. C'est la définition première, plutôt agricole, mais cette définition, qui nous vient des années 70-80, principalement d'Australie, elle s'élargit en fait aussi à tout un mode de vie. Ça veut dire que, à partir du moment où on met en place des systèmes de subsistance, des systèmes agroalimentaires qui prennent soin du vivant, bah, la manière dont on vit après, en tant que communauté, forcément, elle s'en trouve changée. Bill Mollison et David Holmgren.